RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour est la 14e étape du Tour aujourd'hui en direction de Villars-les-Dombes dans le nord-est de Lyon. Le peloton qui remonte la vallée du Rhône à vitesse réduite aujourd'hui en raison d'un fort vent de face qui empêche la progression rapide de ce peloton, avec toujours une échappée qui compte désormais un peu plus de 4 minutes d'avance, échappée dans laquelle on trouve tout de même un Français, Jérémy Roy, l'un des vétérans de la formation de la FDJ, Fred, oui, qui a l'habitude de s'échapper sur les routes du Tour de France.
Oui, Jérémy Roy, âgé de 33 ans, c'est un peu jeune pour un vétéran, mais c'est bien le cas dans cette équipe FDJ, capitaine de route au moins, coureur très expérimenté qu'on avait notamment vu dans un final d'étape, c'était en 2008 avec cette étape remportée par Tourouchov dans les Pyrénées, on s'en souvient. Jérémy Roy qui était là et évidemment sur ce Tour 2016 pour épauler Thibaut Pinot, qui a quitté la route du Tour de France, on vous le rappelle, hier matin, peu avant le départ du contre-la-montre en Ardèche. 102 km à parcourir sur cette étape de transition. La course sur les routes du département de l'Isère, des routes baignées de soleil, pas l'ombre d'un nuage aujourd'hui, et 4 minutes d'avance pour le quatuor de tête.
On part à l'avant de la course avec Georges Quirineau qui a trouvé quelqu'un à qui parler. Il s'ennuyait, il sort de la sieste. Désormais, il a quelqu'un avec qui s'entretenir, un directeur sportif peut-être, Georges.
Oui, et on va essayer de se rapprocher de la voiture de Thierry Bricot, le directeur sportif de la formation FDJ. On va se faire de la place. Marco qui est obligé de klaxonner. On nous a fermé la route. On est au milieu des champs de tournesol. On va se rapprocher de Thierry Bricot. Voilà, on va allumer le micro avec Thierry. Merci beaucoup. Thierry, on est en direct sur RMC. Thierry Bricot, le directeur sportif de la FDJ. On va se coucher un peu à droite parce qu'il y a un rétrécissement. Thierry, avec Jérémy Roy dans cette échappée depuis l'abandon de Thibaut Pinot, chez vous, on vous attend à voir la FDJ chasser les étapes, peut-être comme ça, être dans ce genre d'échappée maintenant, non?
Oui, bah évidemment qu'on est passé dans un mode différent maintenant qu'on a vu notre leader. Bon, c'était pas spécialement programmé aujourd'hui, hein, c'était pas la meilleure journée pour se faire une échappée. Mais voilà, c'était pesant depuis le départ avec la tragédie de Nice. Hier, les coureurs n'ont pas eu l'occasion de se voir avec le contre-la-montre. Ce matin, je pense que ça a beaucoup discuté dans le peloton. Et les coureurs n'avaient pas spécialement envie de bagarrer d'entrée de jeu. En plus, il y avait vent de face pratiquement toute la journée. Mais voilà, au bout de 30 km, Jérémy nous a dit, bah voilà, la course va reprendre ses droits. On va pas faire une longue transition comme ça. Le sport continue et j'ai dit, je vais en mettre une petite pour voir comment ça réagit. Puis voilà, il y a eu 4 courageux et c'est parti. Mais on sait que ça va être très compliqué.
C'est-à-dire qu'au départ, Thierry, le peloton n'avait pas forcément le cœur à la fête. C'est ça que vous nous dites? Il y avait presque une volonté de neutralisation au départ?
Il y a un pacte de solidarité, le peloton est solidaire de ce qui se passe, on l'a bien vu sur tous les réseaux sociaux depuis hier. Et donc c'était pesant à partir de là, ça peut se comprendre. Et en plus il y a de la fatigue qui s'est réunie pour que le départ de la course se fasse gentiment. Mais voilà, la course maintenant est lancée et on devra quand même avoir un sprint ce soir.
Donc si c'est pas pour aujourd'hui, vous avez repéré des étapes qui peuvent convenir à la FDJ. Maintenant ce sera ça pour vous, vraiment aller chercher des étapes peut-être en montagne avec vos coureurs.
Oui, bah c'est évident. Au départ, on avait un leader avec Thibaut Pinot, on avait une équipe autour de lui qui était 100% dédiée à son service. Maintenant, voilà, on doit vite rebondir, passer à autre chose. Et c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on va faire dès cette semaine avec des belles étapes à aller chercher. Ouais.
Et vous avez des nouvelles de Thibaut? Il est rentré chez lui. Marc Madiot nous disait hier que sa participation aux Jeux Olympiques pouvait être compromise également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui?
Oui, non, il est rentré dès hier chez lui. Il a besoin de se ressourcer, de récupérer, de soigner. Il n'y a aucune décision de prise. Là, il va se retaper, comme on dit. Puis on va voir dans 8-10 jours comment ça va évoluer.
Merci beaucoup Thierry Bricot, directeur sportif de la formation FDJ, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous quelques minutes alors que l'échappée rentre à l'instant dans le département de l'Isère. Donc Thierry Bricot qui nous parlait notamment de Jérémy Roy, que Christophe, je pense qu'on peut le dire, fait partie des coureurs les plus appréciés des suiveurs du Tour de France. Toujours le sourire, toujours disponible, le Tourangeau qui a déjà été super combatif du Tour et qui avait même failli gagner une étape sur le Tour de France en 2011 du côté de Lourdes. Il a été battu par Tourouchov, si je m'en souviens bien.
Dans c'était en 2011, donc.
David Moncoutier ne l'avait pas. Ouais, 2011. Où David 2011, Moncoutier ne l'avait pas beaucoup aidé, d'ailleurs, il me semble, dans ce final.
2011, je crois. 2011, 2008, je crois. Oui, tout à fait. Nous avait dit 2008, mais ça nous rajeunit pas. 2011, c'était il y a pas longtemps. Je crois que Jérôme était coureur cycliste encore à l'époque. Et c'était bien placé dans ce coup-là, ou presque.
Oui, j'avais terminé dans. J'étais dans l'échappée. Je pense que j'ai terminé dans les 5 ou 6 premiers. Mais Fred Adam, qui tient des à jour des fiches incroyable. Et des statistiques, va nous le dire très vite. Ouais. Mais il est un peu lent aujourd'hui. Il est un peu comme les coureurs du peloton. Il a.
J'ai vent,
il a
vent contraire. Hein.
Il a vent contraire.
Là, on est sur du Mistral depuis 3 jours, messieurs. Hein. Ouais. Donc là, ça commence à peser. En tout cas, il y avait David Moncouty, on s'en souvient, avec Jérémy Roy, les deux Français qui s'étaient un peu roulés dessus dans le final. Ça avait créé une mini polémique et la victoire était revenue au Norvégien Tore Hushovd.
Un petit mot concernant Thibaut Pinot, Cyril, donc qui a mis pied à terre hier, abandon dans ce Tour de France, qui doit procéder, je crois, des analyses pour savoir ce qu'il a, parce que on nous dit une bronchite, mais il pourrait avoir attrapé un virus, Cyril. Ça pourrait expliquer sa méforme depuis le début de ce Tour de France.
Toutes les explications sont possibles tant qu'on n'a pas fait les investigations. Alors faisons les investigations et ne jouons pas au docteur avant.
Très bien. Ok. Nous allons donc en République tchèque, puisque c'est comme ça. Voir la fin du match, on l'espère en tous les cas, entre la France et la République tchèque pour ce double décisif de quart de finale. Eric Salio, les Français sont bien embarqués dans cette cinquième manche.
Et il leur manque deux points, Puis regardez, plus qu'un passing de revers magnifique de Nico Mahut qui troue la défense de Stepanek et de Rosol. 5-4, 40-0. On est bien. Mais on attend la délivrance parce que on avait peur que Pierre Gerber soit soumis à une immense pression au moment de servir pour le match, mais ça s'est très bien goupillé. Il a passé les premières balles qu'il fallait. 5-4, 40-0, 3 balles de match pour les Bleus, pour virer en tête à 2-1 dans ce quart de finale qui s'annonce difficile. Il l'est. 5-4, 40-0, Pierre Gerber au service. Peut-être la libération au bout. Bonne première. Volée de Nico Mahut. Passing, revolée. Rosol, volée gagnante en Yas. Match à finir de Nico Mahut. C'est fini! Bravo les gars! Victoire 6-4 au 5e set. Noah qui tombe dans les bras du staff français. C'était un point hyper important. Il a été douloureux, extrêmement douloureux à aller chercher. Mais quelle joie,
ouais, c'est
pour
génial.
Nico Mahut et Pierre Hugerbert. Victoire en 5-7, 6-4 à la belle.
Soulagement.
Énorme.
C'est génial.
Les raquettes sont encore sur le coup. Là, ils s'embrassent les deux parce que ils ont connu des moments très difficiles. Je pense que Pierre Gerber s'est dit à un moment, j'y arriverai jamais. Et finalement, à deux, ils y sont parvenus. Victoire cruciale pour l'équipe de France alors que les deux équipes se saluent.
Florent, évidemment, un point important, viré en tête comme ça le samedi soir, c'est une très bonne chose pour l'équipe de France. Il n'y a plus qu'un point à aller chercher. Demain, deux simples. Est-ce qu'on connaît l'ordre des matchs? Qui commencera demain sur le cours de Krenec?
Demain, ça va être le duel des numéros 1 tout d'abord. Donc,
pas sûr,
chez
pas
les.
Sûr. Moi, je vois bien Stepanek débouler sur le cours.
Bien sûr, parce que en fait, c'est le duel des numéros 1, j'allais dire. C'est Joe qui va commencer, donc, qui aurait dû affronter du coup Jere Vesely. Mais moi, Stepanek, comme tu le dis, Eric, il va rentrer sur le cours du coup pour éventuellement un match décisif ensuite entre Lucas Pouille et Lucas Rosol. Et si les Tchèques n'avaient eu qu'un point à remporter, ils auraient envoyé Vesely et ils auraient gardé Stepanek pour jouer contre Lucas Pouille dans la rencontre décisive. Donc demain, on va assister à un Joe Tsonga contre Stepanek, je pense, d'entrée, et à Lucas Rosol contre Lucas Pouille pour un éventuel match décisif, en espérant que les Français tournent à 3-1.
Eh bien, nous verrons ça demain. Merci, messieurs, pour nous avoir fait vivre ce double important, donc, avec la victoire de l'équipe de France. Eric, rendez-vous à quelle heure demain pour la dernière journée de ce quart de finale?
Je crois que c'est 13h.
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 Eh bien, on vous attend.
Sans garantie.
On vous attend demain, messieurs. Et puis, évidemment, Eric, lorsque tu as des réactions, on les écoutera cet après-midi dans notre étape qui paraît longue. Merci à tous les deux. À demain, donc, pour la dernière journée de ce quart de finale. Et on l'espère, la grande joie pour l'équipe de France. Fred, nous accueillons dans notre studio un invité aujourd'hui pour parler de l'une des polémiques de ces derniers jours. Enfin, pas une polémique, mais pour évoquer d'autres choses, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a vu un vélo jaune l'autre jour dans l'ascension du Mont Ventoux qui ne correspondait pas vraiment au maillot jaune. C'était un vélo d'assistance qui a été prêté. Et j'espère qu'il a été rendu, d'ailleurs, par notre ami Chris Froome.
Sans aucun doute. Il lui allait vraiment bien au teint, effectivement. Ouais. C'était un vélo Mavic qui est le dépanneur des coureurs sur le Tour de France depuis des décennies maintenant. On accueille Jacques Cortegiani qui est le responsable événement, responsable de la course chez Mavic. Bonjour Jacques, merci de nous rejoindre.
Bonjour à vous, merci de m'avoir invité.
Effectivement, les vélos jaunes, on les connaît. Les roues Mavic, évidemment. Mavic, c'est un équipementier, un accessoiriste.
Oui, on a un équipementier, accessoiriste. Ça va. L'année prochaine, ça fera 40 ans qu'on sera sur le Tour de France en tant qu'assistance neutre. Donc voilà, pas mal de journées de course aussi. On fait plus de 200 jours de course par an sur toutes les courses à travers le monde. J'ai une équipe qui est en ce moment au Tour de Pologne en même temps que du Tour de France. Ouais. Donc voilà, pas mal des gars aguerris qui sont là pour assister les coureurs en cas de besoin.
Tout le monde connaît les voitures des équipes, les voitures de direction de course, les voitures rouges évidemment. Ça fait partie de l'imaginaire, de la légende du Tour de France. Tout le monde connaît également la fameuse voiture jaune qu'on voit, comme Jacques vient de le dire, bien souvent sur le Dauphiné, sur Paris-Roubaix, sur tout plein de courses. Effectivement, c'est un acteur incontournable des courses cyclistes, et c'est vrai que la voiture d'assistance neutre a été mise en lumière dans le final de cette étape du Mont Ventoux avec, on vous le rappelle, ce scénario incroyable de Christopher Froome qui casse son vélo en rentrant dans une moto-télévision, en chutant avec Bauke Mollema et Richie Porte, dépanné ensuite après un footing de 150-200 mètres par la voiture Mavic. Donc, que s'est-il passé? Pourquoi le vélo que Mavic a fourni à Christopher Froome, pourquoi il ne lui a pas convenu?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a trois voitures et un scooter en course.
Vous avez des scooters, vous n'avez pas de moto, vous êtes passé au scooter.
On est avec un T-Max qui est plus pratique pour la course. Qui est,
pas des scooters 50 cm.
Ouais, non, c'est un 650 cm3, donc qui est plus pratique, plus maniable, voilà, qui fait pas d'à-coups en course. Donc c'est important pour les étapes de montagne. Et quand Denis le pilote m'annonce que les trois premiers sont tombés à cause du public, donc nous on est derrière, on est en alerte. Moi j'étais juste derrière le groupe avec Quintana. Voilà. Et puis
Quintana, Bardet, Adam Yates,
donc parce que l'écart venait à peine de se creuser, il y avait une vingtaine de secondes. Et tout d'un coup je me retrouve derrière le maillot jaune. Et là, j'ai l'impression d'avoir une hallucination. Je vois un maillot jaune courir au milieu de la foule. Et nous, on voit pas son vélo sur le bord de la route.
Donc vous, Jacques, vous êtes sur un scooter?
Non, j'étais dans la voiture. Présent dans la voiture, juste derrière les échappés.
D'accord.
Donc là, et mon collègue était sur le scooter en train d'assister Froome.
Sur le scooter, on rappelle que votre assistant n'a que des roues à la main. Il n'a pas de vélo complet. Hein.
Oui, il n'est pas possible de mettre un vélo un scooter. On a trois roues sur le scooter et des roues à la main. Par contre, sur la voiture, effectivement, on a des roues et on a trois vélos de différentes tailles. Un vélo en taille 52, un vélo en taille 54 et un vélo à taille 56, parce que nous sommes là pour assurer l'assistance neutre de tous les coureurs, étant donné qu'il y a des gabarits différents et il en faut pour tout le monde. Mmh. Alors, c'est vrai que le vélo, pour Chris Froome, qui mesure quand même plus d'1m85, paraît assez petit. Donc voilà, sur le vélo de 52, on avait effectivement une paire de pédales Look Shimano.
Voilà.
Sur le vélo de 54, on avait une paire de pédales avec des cale-pieds traditionnels. Et sur le vélo grande taille, on avait une paire de pédales Mavic. Et ça arrive tellement vite que vous apercevez le maillot jaune qui est là en train de courir. Et vous savez qu'il n'y aura pas son directeur sportif juste derrière vous. Et vous dites, s'il franchit la ligne d'arrivée à pied, il va être mis en course. Parce que le règlement stipule que vous devez franchir la ligne d'arrivée avec un vélo.
Jacques, on va s'interrompre quelques instants. Vous allez continuer à nous raconter cette histoire, parce que là, évidemment, c'est important. Mais là, c'est l'heure du quintet. Vous savez, il y a des traditions comme ça, hein, à la radio. Et Fred Zermati fait partie de la tradition, évidemment, des commentateurs épiques. Il est avec nous pour le quintet. Salut Fred.
Salut Christophe. On est dans les 300 derniers mètres avec Ursule Dubouffet. La dernière minute RMC qui a l'avantage, mais qui se fait déborder maintenant par le 18. Un nuage d'osmose qui finit très vite, et je pense qu'il y a l'avantage d'avoir Ursule Dubouffet. On termine bien également avec le 17 Alpha Saltor, c'est le numéro 18 qui va s'imposer à Nuage d'Ospos à l'extérieur. On termine très bien avec les numéros 12 Aliénor de Godel, 13 Artiste de Joude, ensuite on a certainement le 17 Alpha Saltor et le 15 Ursule Dubouffet qui est un petit peu coincé dans la phase finale et qui doit se contenter de la 5ème place. L'arrivée donc de ce quintet, le 18 à Nuage d'Ospos devant le numéro 12 Aliénor Alexandre de Gaudrel qui a très bien terminé. 14 contre 1 pour le lauréat. Le 12, Alexandre de Gaudrel, était proposé à la cote de 11 contre 1. Troisième place pour le favori de l'épreuve, le 13, Artiste de Joude à 4 contre 1. Quatrième place pour le numéro 17, Alpha Saltor à 5,5 contre 1. La cinquième place pour le numéro 15, Ursule Dubouffet, qui était proposé à 14 contre 1. 18, 12, 13, 17 et 15. L'arrivée provisoire du quintet aujourd'hui en lien, Christophe.
Merci Fred. À tout à l'heure.
Paris Pique Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, dans le quintet, on n'a pas besoin de voiture d'assistance pour remplacer les sabots des chevaux. Mais en revanche, dans la course cycliste, on en a besoin. Jacques Cortaggiani, qui est donc notre invité, il est le responsable de la société Mavic qui secourt donc les coureurs qui sont victimes d'incidents mécaniques, comme c'était le cas donc l'autre jour pour Chris Froome. Jacques, vous nous racontiez. Donc, vous êtes juste derrière un maillot jaune à pied dans l'ascension du Ventoux. Il faut lui trouver un vélo parce qu'autrement il va être disqualifié. Le problème, c'est que vous avez des vélos, mais vous avez peut-être pas les cale-pieds adaptés
aux cales.
Les pédales, plus exactement.
Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai pris l'initiative de dire à mon mécanicien de lui donner le vélo de la plus grande taille, en sachant très bien que même s'il n'y avait pas les bonnes pédales, il aurait quand même pu pédaler. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait.
Excusez-moi, parce que vous savez quel coureur, quelle équipe. Pour chaque équipe, vous savez quelles pédales sont fournies par les équipementiers. Vous savez par exemple que chez Sky on est Shimano, que chez Lotto Soudal par exemple on est Speedplay, que chez chez Bora on est Time.
Non, on commence la saison avec eux au Qatar au mois de février. On la termine à Paris Tour au mois d'octobre. Donc quasiment toutes les semaines on est avec les pros. Donc voilà. On est avec eux dans les hôtels, on les suit tout au long de l'année. Donc voilà, on sait exactement quel type de pédale ils usent. Donc voilà. J'ai privilégié plutôt de la taille
plutôt que la compatibilité
parce que voilà, si vous donnez un vélo de 54 à une personne qui mesure 1m85, le vélo il va être trop petit pour lui, ouais. il va pédaler les genoux dans le guidon et ça va.
Alors
pas
il faut bon. Il faut expliquer, Fred, Jérôme, Jacques, qu'aujourd'hui avec le vélo moderne, c'est un peu compliqué de pédaler lorsqu'on n'a pas les chaussures adaptées aux pédales, hein. C'est-à-dire que lorsque c'est pas compatible, on a le pied qui n'est pas accroché au vélo, au pédale.
Qui n'est pas fixé. Bah,
disons, on peut pédaler juste en appuyant. Pousser. Par contre, on ne peut pas tirer. Ce qui fait qu'on ne peut pas se mettre en danseuse.
Et donc, dans le Ventoux, c'est un peu compliqué. Hein. Si on fait juste appuyer et pas tirer,
on avance beaucoup moins vite. Ça a beaucoup bien marché
comme ça.
Oui, mais par contre, ça a permis quand même à Chris Froome de faire quelques mètres en attendant qu'on arrive au barriérage et à la voiture de Sky de pouvoir venir, la voiture de Nicolas Portail, de venir lui prêter un vélo pour faire les 400 derniers mètres.
Parce qu'effectivement, une fois que la route a été barriérée, la progression se faisait beaucoup mieux, la progression des voitures suiveuses, et c'est là qu'effectivement que Sky a pu dépanner son coureur. 1 minute 40, on vous le rappelle, le débours sur la ligne d'arrivée, il a perdu gros, mais il a été reclassé dans le même temps que Bauke Mollema. On le rappelle, hein, cet épisode qui restera dans les annales de la course cycliste en général. Quelle remarque ou quelle réflexion vous a fait Christopher Froome ou peut-être l'encadrement de Sky au soir de cette étape du Ventoux? Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux?
Oui, j'ai discuté avec Nicolas Portal. Donc voilà, il savait très bien que le plus important c'était de lui fournir un vélo. Parce que voilà, il a discuté avec Chris et Chris était décidé à aller coûte que coûte jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, on ne savait pas le temps qu'allait mettre Sky pour venir. Donc nous on lui a fourni un vélo, après comme je viens de le dire, à partir du barriérage il a pu effectuer donc le changement et récupérer un vélo de sa marque. Voilà, c'était surtout le plus important que Chris ne passe pas la ligne d'arrivée à pied, parce qu'il aurait été mis en course.
Il n'y a pas de polémique de la part de Christopher Froome, aucune colère, il sait comment ça se passe.
Il sait
tous ensemble, hein.
Tiens, Georges Quirino sur la moteur MC a une question à vous poser, Jacques. Georges.
Oui, Jacques, par rapport à une vidéo qu'on a vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux depuis deux jours, c'était en plein cœur du Grabus justement, quand Chris Froome cherche un vélo et finit par enfourcher ce vélo Mavic. On voit dans une vidéo tournée par un spectateur passer le scooter jaune Mavic et accroché derrière
Nairo Quintana qui est tracté par le scooter Mavic. Est-ce que vous avez assisté à cette scène? Combien de temps ça a duré? Quel est le contexte exactement de ce qui s'est passé pour Nairo Quintana?
Bah, le contexte, c'est que quand Chris Froome, Richie Porte sont repartis, bien sûr la priorité était de dépanner le maillot jaune, donc ce qu'a fait mon collègue sur le scooter, il a poussé Chris Froome, et après il s'est occupé de Richie Porte, et sur la vidéo on voit effectivement en train de pousser Richie Porte, et Denis qui était sur le scooter continuer derrière Richie Porte pour pouvoir récupérer le mécanicien pour qu'il puisse remonter le plus rapidement possible sur le scooter. Du fait du bouchon, effectivement, on aperçoit Nairo Quintana qui s'accroche à la moto.
On a l'impression que ça
mais je pense
secondes,
que pas c'est plus images, c'est plus pour éviter de déchausser dans le Ventoux et de repartir. D'ailleurs, mon mécanicien m'a dit que suite à ça, quand le pilote moto s'est arrêté, Nairo Quintana est passé entre le mécanicien et le pilote moto pour continuer sa route. Donc il y a eu quoi? Il y a dû avoir 3-4 secondes où il s'est accroché, juste le temps que le mécanicien remonte sur le scooter. Voilà. Effectivement, c'est vrai que sur la vidéo, ça peut prêter un peu à confusion. En tout cas, il n'y a pas eu. Moi, j'en ai parlé avec Thierry Gounou, qui est le directeur de course, avec le collège des commissaires, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de, il y avait pas fait de course, rien du tout. Mais c'est vrai que la vidéo peut prêter à confusion, mais c'est plus pour éviter à Nairo Quintana de poser pied par terre dans le Ventoux et de repartir.
Non, il est évident qu'on ne peut pas parler de gain pour Quintana. C'est un faux débat, j'ai l'impression. Mais c'est une bonne question. Moi, l'autre question, j'avais envie de poser une question. Compte tenu de la position qu'il avait prise dans la descente du col d'Assouan, vous auriez pu donner un tout petit vélo, il n'aurait pas été ennuyé du tout.
Ah, effectivement, c'est vrai.
Je plaisante.
Il nous a vraiment surpris dans la descente en pédalant assis sur le cadre. C'est vrai qu'on aurait pu à ce moment-là lui donner un vélo.
Et il reprenait la même position, puis il s'envolait.
Et effectivement. Par contre, bon, il aurait fallu qu'il se retourne pour s'apercevoir que ça descendait parce que là, ça montait vraiment haut du Ventoux.
Merci Jacques d'être venu dans notre petit camion RMC pour nous expliquer ce qui s'est passé l'autre jour, ces images incroyables dans l'ascension du Ventoux et ce beau maillot jaune avec un beau vélo jaune, mais qui ne lui correspondait pas. Bon, la prochaine fois, il faudra que Sky vous dise ce qu'il faut mettre comme vélo à disposition du maillot jaune. En tous les cas, hein, ça a été sans conséquence pour lui puisqu'il a récupéré son temps. Merci Jacques d'être venu.
Merci à vous pour votre accueil
dans l'intégral tour. On va se quitter quelques instants. On revient 90 km de l'arrivée. Encore 3 minutes d'avance pour les 4 hommes de tête. On revient dans un instant sur RMC. En attendant, on repart sur les routes de France avec Valentin Mailleux pour les conditions de circulation.
Et il reste du monde hein, sur les routes, Christophe, et notamment en vallée du Rhône sur la 7 en direction du sud. Encore des difficultés pour rejoindre Orange depuis le péage de Vienne. Vous mettez près de 4 heures. La 7 où c'est aussi compliqué de remonter vers Lyon depuis Orange cet après-midi. Vous avez du mal à rouler, mettez au moins 1h45 de plus. Dans le sud, sur la 9 en direction de l'Espagne, il y a un accident signalé par la communauté Coyote à hauteur de Narbonne. Accident qui rallonge de nouveau votre parcours de près d'une heure et demie entre Nîmes et Perpignan. Et puis Narbonne où c'est décidément compliqué d'arriver par la 61 cet après-midi également. Ça coince souvent depuis Carcassonne avec 1h15 de trajet en plus. Si vous avez préféré les côtes aquitaines, vous n'êtes pas en reste avec la 10 vers Bordeaux. Trafic toujours dense depuis Tours et puis en approche de Bordeaux également, ça freine. Et puis si vous continuez vers le Pays Basque, ensuite sur la 63, c'est presque une heure supplémentaire qu'il faudra compter. Bon courage et bonne route sur RMC.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de France sur RMC, vous en avez pris l'habitude, on est encore là une grosse semaine hein, puisque le Tour de France s'achèvera dimanche en 8 sur les Champs-Élysées. Évidemment, il reste encore pas mal de belles étapes à venir, notamment la semaine prochaine dans les Alpes, mais dès demain nous aurons probablement une très belle étape. Le Tour de France est-il joué? C'est la question que tout le monde se pose, la réponse on l'a quasiment, mais bon, il peut encore se passer des choses évidemment en 8 ou 9 jours de course très exactement. En attendant aujourd'hui, c'est la 14e étape, près de 88 km 700 encore à parcourir avant l'arrivée tout à l'heure à Villars-les-Dombes, le peloton qui remonte sur le couloir rhodanien avec face à lui le vent qui empêche une progression rapide de l'étape, une étape qui devrait s'achever aux alentours de 18h. On fait un point sur la course, le top course.
avec effectivement 4 coureurs à l'avant à 88 km de l'arrivée, une moyenne inférieure à 36 km heure depuis le départ de cette 14e étape. C'était tout à l'heure à Montélimar dans la Drôme, les coureurs sur les routes du département de l'Isère en direction de l'Ain, arrivés à Villars-les-Dombes, là où le parc des oiseaux fait le bonheur des petits et des grands. Route baignée de soleil aujourd'hui, 4 hommes en tête. L'instigateur de cette échappée n'est autre que le français Jérémy Roy. Vous entendez les oiseaux qui survolent la zone d'arrivée ici. 88 km de l'arrivée donc, et Jérémy Roy est accompagné de l'italien Benedetti de l'équipe Bora, de l'américain Alex Howe chez Cannondale et du suisse Martin Elmiger de la formation Yam Cycling. Elmiger qui dispute son dernier Tour de France, 88 km à parcourir, 3 minutes 15 dernier pointage. Le peloton emmené par les équipes de sprinteurs, laisse évoluer cette échappée sans forcément vouloir la reprendre. L'idée, c'est de faire triompher l'un des bolides des tout derniers kilomètres tout à l'heure aux alentours de 18h a priori, car oui, le Mistral continue de souffler dans le couloir rhodanien, moins fort que les jours précédents, mais il ralentit la progression des coureurs aujourd'hui.
Allez, 87 km 700 encore à parcourir avant l'arrivée à Villars-les-Dombes. On va donc entamer notre petit débat avec nos confrères du Parisien. Là aussi, vous en avez l'habitude. C'est David Opozinski qui est avec nous aujourd'hui. Salut David.
Bonjour à tous.
On va évoquer ce fait de course, évidemment. L'autre jour, on a eu les explications techniques du secours de Chris Froome il y a quelques minutes. Il faut rappeler, Fred, qu'à l'arrivée de l'étape, Chris Froome avait perdu du temps, mais que les commissaires ont décidé finalement de le reclasser dans le même temps que Bokke Mollema. Alors, est-ce que cette décision aujourd'hui ne vient pas finalement contrarier Chris Froome? Parce qu'hier, on l'a vu à nouveau triomphant sur les routes du Tour dans le contre-la-montre. Il a pu récupérer son maillot jaune sans aucun souci. Mais en revanche, cette décision, on l'a vu sur les réseaux sociaux, n'a pas joué en faveur de la popularité de Chris Froome. Alors je ne sais pas comment ça se passe, on va peut-être demander son avis à Pierre-Yves qui était au village départ tout à l'heure. Pierre-Yves Leroux, que je salue, bonjour Monsieur Pilou.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Est-ce qu'aujourd'hui Chris Froome s'est fait siffler par les spectateurs, ou est-ce qu'on est encore dans une ambiance un peu particulière dans ce Tour de France? Mais bon, la popularité du Britannique, évidemment, qui commençait à remonter légèrement, s'est affaissée tout d'un coup avec la décision des commissaires.
Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de réaction vraiment sur le bord des routes. Là, on a fait toute l'étape avec Jérôme Pinot. Il n'y a pas des panneaux ou quoi que ce soit. Les gens ne sifflent pas au départ Christopher Froome. C'est vrai qu'il y a eu ce petit mouvement l'autre jour à l'arrivée au Chalet Reynard, et c'est quelques sifflets, c'est hué, mais c'est pas représentatif. Et je posais la question à Thomas Voeckler ce matin sur ce qu'il pensait. Lui, il connaît bien ce qu'est la notoriété, et disait c'est à peu près comme les 100 imbéciles qu'on trouve dans un stade de foot et qui vont siffler à un moment, et puis qui 5 minutes après vont applaudir le même joueur parce qu'il a fait une belle action. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment. Je ne suis pas sûr que dans les jours qui viennent il y ait quelque chose de franc anti-Froome sur le bord des routes.
Alors on va pas revenir sur la légalité ou non de la décision des commissaires. Je sais que Cyril a son avis là-dessus, mais David, est-ce qu'ils lui ont pas rendu finalement un mauvais service en lui redonnant ce temps perdu sur la route dans les classements?
C'est sûr qu'en termes de popularité, Chris Froome avait fait, on va dire, des efforts pour gagner les cœurs avec son attaque dans la descente, puis sa gestion de la bordure. Voilà, finalement, il peut pas grand-chose à ce qui s'est passé, et il a récolté des sifflets, mais je pense qu'il y avait aussi d'incompréhension.
Lui, il peut pas grand-chose, mais on a l'impression quand même que les directeurs sportifs, la direction de Sky, il peut quelque chose, parce qu'ils sont allés faire pression, évidemment.
Faire pression, ils plaider leur cause.
C'est normal.
Boulot aussi. Oui. Après, le coureur, lui, il a plus subi tous ces événements. Pour revenir à ce qui s'est passé au Chalet Reynard, c'est vrai qu'il y avait aussi... l'attente avait été tellement longue de savoir ce qui allait advenir du classement général, plus l'incompréhension finalement globale, parce que à cet endroit-là, les réseaux téléphoniques ne passaient pas du tout, c'était très dur d'avoir des informations, donc le public était un petit peu sans doute perturbé et perdu. Voilà, il a manifesté son mécontentement. Je suis pas sûr, il va falloir voir dans les prochains jours comment le public se comporte avec Chris Froome. En tout cas, hier soir, à l'arrivée, bien sûr, il y a eu un respect total qui était lié à un protocole particulier. On va voir ce soir ce qui se passe ici.
Le public, évidemment, Jérôme, qui rêve que la bagarre se prolonge le plus longtemps possible, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont sifflé et ont critiquer la décision des commissaires. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi rendu un mauvais service au Tour de France en décidant de créditer Froome du même temps que Mollema?
Ouais, certainement. De toute façon, on sait que le public n'est pas très fan, très friand de Chris Froome et de l'équipe Sky, une équipe qui se cloître. On les voit très renfermés sur eux-mêmes, très peu de communication, peu de sourire.
Mis à part
notamment.
Nicolas Portal. Hein,
mis à part Nicolas sportif. Portal qui est
accessible.
Ouais, plutôt accessible. Certainement, mais je pense que quand on est l'équipe Sky, quand on vient avec les moyens que l'on met dans le vélo, avec Chris Froome en favori, on n'en a un peu rien à carrer qu'il soit populaire. On a surtout envie qu'il gagne le Tour de France.
Oui, parce que de toute façon, au Royaume-Uni, il reste très populaire.
Et hein, de toute façon, en France, on est un peu contre tout ce qui gagne trop souvent. Donc Chris Froome, lui, il est là pour gagner, il est payé pour ça. Et c'est logique que ce soit pas le coureur qui a bien autre chose à faire que d'aller porter réclamation auprès des commissaires. C'est logique que ce soit son équipe qui le fasse. C'était la démarche minimum à faire pour l'équipe Sky, puisque quand on a vu ce qui s'est passé, on devait aller au moins se rendre compte de ce qui se passait, quelles étaient les décisions possibles. J'ai croisé un ancien directeur de course et commissaire ici au Parc des Oiseaux qui me dit que cette décision, elle a été prise sous le bon sens. On n'a pas forcément appliqué à la règle et à la lettre le règlement, mais on a fait preuve de bon sens pour ce qui est de la popularité de Chris Froome. De toute façon, je pense que effectivement, il était un peu remonté dans les sondages, si on peut dire, ces derniers jours. Mais ça n'est pas le coureur le plus populaire du Tour. Loin de là, il ne le sera jamais. Donc ce qui l'importe, lui, c'est d'être maillot jaune à Paris. Et pour ça, il est très bien parti.
Cyril, en revanche, cette décision, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi. Parce que quand on n'applique pas le règlement et qu'on l'applique un peu à la gueule du client, on se demande ce que ça va donner dans les courses à venir. Ça peut faire jurisprudence, cette histoire-là.
Elle fera obligatoirement jurisprudence. Je pense que cette affaire, pour l'instant, est un petit peu en sommeil, dans la mesure où il y a eu les événements que l'on connaît, et donc une certaine retenue à tous les niveaux, d'ailleurs au niveau du public, au niveau des médias, même au niveau des coureurs. Et donc on a été un petit peu chloroformé, entre guillemets, par rapport aux événements, sur ce qui s'était produit sur la montée de Chalet-Reynard. Donc je pense qu'il faut peut-être attendre peut-être quelques jours que, on va dire, certaines choses reprennent leur place. Mais il est clair que de toute façon, on ne revient pas sur la chose qui a été jugée. On repart sur les bases d'aujourd'hui. Point. En revanche, il va quand même y avoir deux questions qui vont se poser. C'est que comment faire pour qu'il n'y ait pas suite à cet événement qui va faire jurisprudence, et qu'on n'ait pas à chaque arrivée de course quelqu'un qui va dire oui mais alors attendez, faites course, on reclasse devant. Donc il va falloir maintenant légiférer de façon très précise ce qu'est un fait de course et comment peut-on remettre en place un coureur qui a été victime d'un fait véritable ou de quelque chose qui n'est pas obligatoirement un fait. Ça va être très compliqué, comme je dis, il faudra pratiquement 45 pages pour définir cela.
Tous les détails, toutes les situations diverses et variées qui pourraient se produire sur la route. Fred, ton avis sur la question, est-ce que c'est une bonne décision, compris les commissaires, est-ce qu'ils ont rendu service à la fois à Froome, au Tour de France et même au cyclisme en général?
Oui, la décision pour moi est la bonne. Après, la question de la popularité de Christopher Froome, c'est totalement autre chose. C'est vrai, comme l'a dit Jérôme, que sa popularité va pas forcément être augmenté par cette décision. Et c'est vrai qu'il faisait tout depuis le départ du Tour, Christopher Froome, pour s'attirer la sympathie du public, des téléspectateurs, du public français. Maintenant c'est un gagneur, Christopher Froome. Il est dans la meilleure position pour remporter le Tour. Il est bien meilleur cette année, je trouve, que les années précédentes
dans
ses relations envers la presse, presse. Il n'a jamais été aussi arrogant qu'un Lance Armstrong. Hein. Ne vous méprenez pas.
C'est pas lui qui est arrogant. C'est quelque part un peu son équipe. En tous les cas, c'est la réputation qu'elle a.
Ça n'a rien à voir avec l'US Postal, avec Discovery Channel, avec l'Air Lance Armstrong. Là, chez Sky, on est sur quelque chose effectivement de très froid peut-être, mais rien d'arrogant. On est sur la quête de l'excellence pour tout. C'est vrai que c'est un peu robotisé parfois. Christopher Froome a tout du gendre idéal quand même. Il n'a aucune mauvaise attitude. Son seul défaut presque, c'est de gagner, c'est de pas être très très beau sur un vélo peut-être, d'être physiquement un peu différent de nous tous autour.
Ouais,
de...
il te ressemble un peu quand même.
Ouais, bon, c'est, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment.
D'avoir commencé sa carrière très tard.
Oui, d'avoir explosé, de s'être révélé au grand public par des performances
Il est victime
assez
surtout, il est surtout victime de cette suspicion permanente dès qu'il y a quelqu'un qui domine. C'est surtout ça que les gens lui reprochent, c'est de trop dominer presque. Il faudrait qu'il laisse un peu de suspense. Et ce qu'on reproche presque à cette décision des commissaires, c'est finalement de dire oui, mais en lui laissant le temps qu'il a perdu, ça aurait relancé le tour, on aurait assisté à un tour plus sympa, il y aurait eu moins d'écart. Ouais, mais alors à ce moment-là, on lui donne une pénalité au départ à Paris et il fait une course à handicap. Comme ça, il y aura du suspense. C'est pas ça, le vélo, c'est quand c'est le plus fort qui est dans les pentes du Ventoux, il attaque, il prend du temps et qu'il y ait des motos qui l'arrêtent ou pas, et c'est lui qui gagne, c'est lui qui gagne. Et il n'est pas là pour être populaire. Un coureur français a besoin d'être populaire, mais un coureur comme Chris Froome, il n'a pas besoin d'être populaire. Il a seulement besoin de gagner le Tour de France le autant que possible, le plus souvent possible, pour après finir sa carrière.
Un coureur n'a pas besoin d'être populaire.
Un coureur français en a besoin plus que sur le Tour de France.
Est-ce que Indurain, Hino, Merckx c'était des coureurs populaires
Je vais décoder ce que vient de dire Jérôme. Un Français a besoin d'être populaire en France, qu'il ne le soit pas en Allemagne, il s'en fiche.
Voilà, c'est exactement ça.
Froome a besoin d'être populaire au Royaume-Uni. Les Anglais aiment bien les gens qui gagnent en plus. Les Anglais adorent ça.
Donc en fait, on a besoin d'être populaire dans sa cour, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, même sans avoir été repêché, il serait en jaune, Christopher Froome.
Oui, bien sûr.
Et au-delà de la décision, à mon avis, dans deux jours, on l'a oublié, la décision du jury des commissaires. Mais ce qui restera pour l'heure de cette édition 2016 du Tour de France, c'est cette image incroyable, ces images incroyables d'un maillot jaune qui court totalement désemparé, tellement en panique. Et cette image, elle a ancré pour de bon l'imaginaire du public, l'imaginaire du suivi. Elle est entrée dans les annales. Christopher Froome fait partie de l'histoire du Tour.
Georges Quirino a un petit mot à ajouter, Georges.
Non, parce que sur ce thème-là, c'est exactement la discussion que j'ai eue ce matin avec Nicolas Portal, le directeur sportif de la Sky, où je lui posais exactement cette question. Est-ce que pour vous, c'est important d'être populaire ou c'est juste gagner qui vous importe? Et nous, on aime la compétition, on aime le vélo avant tout. Évidemment que le but, c'est de participer et de gagner pour la formation Sky qui a ça ancré dans ses jeunes, on va dire. On n'est pas forcément très populaire, très conscient, hein, Nicolas Portal, qui dit que voilà, on a une façon de courir qui est peut-être un peu froide et qui plaît pas forcément à tout le public. On préférerait être populaire et gagner. Malheureusement, c'est pas forcément le cas, mais bon, voilà, on gagne et c'est la chose la plus importante pour nous. Nicolas Portal, qui comprenait également ce matin quand lui évoquait que chez certaines équipes, il pouvait y avoir un petit peu d'incompréhension sur la décision du jury par rapport à Christopher Froome, il a dit voilà. Moi je comprends que certaines équipes soient un peu en colère par rapport à cette décision, mais cette décision c'est celle du jury. Nous on était dans notre position d'aller voir le jury, donc on est assez conscient des choses, on va dire, chez Sky. Mais bon, la popularité, évidemment que c'est pas la priorité pour l'équipe. Nicolas Portal d'ailleurs qui nous disait que derrière Chris Froome dans la voiture cette année, il avait quand même le sentiment que l'hostilité qu'il y avait l'année dernière à propos du maillot jaune était quand même un petit peu moins importante cette année sur les routes du Tour.
Voilà, le pragmatisme froid des Britanniques qui sont là pour gagner.
On a une dualité rapidement. Oui, on a une dualité effectivement entre les Latins, parce que ce qu'expliquait Jérôme pour les Français qui ont besoin de populaire, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Espagne. Mais à partir du moment où vous êtes, on va dire, dans le groupe américano-anglais, l'important c'est de gagner, l'important c'est d'être riche, l'important, nous on n'a pas cette même culture, donc il y a vraiment un choc des cultures à ce niveau-là.
Ouais. Les Anglais, on les adore quand ils
perdre, hein, David. On se souvient que l'équipe d'Angleterre de rugby n'a jamais été aussi populaire que lors de sa dernière Coupe du Monde, lorsqu'elle s'est fait sortir. Et depuis, la popularité est tombée parce qu'ils ont réappris à gagner.
Absolument.
Merci, David, d'être venu dans notre petit camion pour ce débat consacré donc à la popularité de Chris Froome. Le Tour de France est à lire tous les jours dans le Parisien. Un peu moins de place aujourd'hui, évidemment, mais dès demain, ça va repartir de plus belle. Évidemment. Merci, David.
À bientôt.
On se retrouve demain à 15h48. On se retrouve dans un instant. 78 km encore à parcourir. Mais quand cette étape finira-t-elle? Allez, 3 minutes 26 d'avance pour les hommes. Les hommes de tête, les 4 hommes. On revient dans un instant pour vous faire vivre le final et pour la musette également, hein, parce que tout le monde a ramené des petites informations. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Allez, du courage messieurs, pédalez. Il faut quand même que cette étape se termine un jour. 76 km encore à parcourir pour les 4 hommes de tête et le peloton qui chasse derrière, enfin qui pêche plutôt aujourd'hui. 3 minutes 15 de retard, Fred, on fait un point complet. Les 4 hommes de tête n'ont pas beaucoup d'espoir, mais ils continuent de pédaler en direction de l'arrivée. Ah tiens, d'abord avant de faire le point, Georges Quirino nous appelle sur la moto. Je crois qu'il est en compagnie d'un des directeurs sportifs des échappés.
Et exactement, on se rapproche de la voiture Yam de Mario Chiesa qui est avec Martin Elminger dans ce groupe où il y a également Jérémy Roy. Bonjour, c'est pour vous un. Je vais vous donner le micro, si vous pouvez prendre le micro, c'est plus facile. C'est un Tour de France un peu particulier pour votre équipe, on imagine pour l'équipe Yam Cycling. C'est le dernier tour. Quel est l'état d'esprit dans cette équipe sur ce Tour de France, Mario?
Bah, je pense que nous, on est toujours motivé parce qu'on a pris beaucoup d'échappées. On a fait un bon résultat hier aussi à la chrono, aussi à Mont Ventoux. On cherche toujours de faire de bons résultats. Bon, on est des professionnels, on va continuer jusqu'à la fin.
Et pour Martin, c'est son dernier Tour de France. Il avait envie d'être dans une échappée aussi, lui, aujourd'hui.
Oui, lui... Ce matin, ces deux coureurs qui doivent aller dans l'échappée, je sais que c'est difficile qu'ils vont au bout, parce que les équipes des sprinters, ils vont chercher d'arriver au sprint, mais c'est des occasions qu'ils ne peuvent pas perdre.
Et le Tour va venir en Suisse cette année, ce sera important pour l'équipe Yam de briller en Suisse?
Oui, ça c'est sûr, c'est aussi notre objectif pour cette étape, mais... C'est un peu difficile. On va chercher de faire le mieux possible, comme toujours.
Merci beaucoup Mario Chiesa, directeur sportif de l'équipe Yam. On rentre dans une localité, donc ça se rétrécit, on va être obligé d'arrêter. Dommage, on avait envie de lui demander quel coureur était Jérôme Pinault.
Ça aurait été intéressant d'entendre l'ancien directeur sportif de Jérôme Pinault nous parler de lui, hein, cette équipe Yam qui va donc.
T'as été gentil chez Yam, Jérôme? Ils vont pas nous sortir des dossiers?
J'ai été gentil, oui. J'ai été très gentil.
T'as été trop gentil.
J'ai été trop gentil peut-être.
Oula. Il y a des affaires qui vont sortir.
Quelle image tu as laissé chez Yam? Sois honnête s'il te plaît.
Je sais pas, peu m'importe.
Un coureur intègre.
Toujours.
Un homme bien.
Un bon capitaine de route. J'ai laissé l'image que j'ai laissée partout. Certains m'ont beaucoup apprécié, d'autres un peu moins. Tant pis, c'est comme ça.
Ce qui est sûr, c'est que Jérôme ne laisse pas indifférent, hein, un sens comme dans l'autre.
Nous, on l'aime plutôt bien.
C'est
nous.
Une équipe plutôt l'instant. Très sympathique. Avec peut-être un peu trop de personnes dans l'entourage de cette équipe qui ne connaissent pas forcément très bien le cyclisme, mais c'est une équipe sympathique qui a au moins le mérite d'exister et que je remercie, qui m'a donné la chance de continuer ma carrière, et ça je remercie monsieur Teta pour ça.
Comment ça s'est décidé justement la fin de carrière, Jérôme? C'est toi qui a décidé d'arrêter? Est-ce que il te proposait un contrat pour l'année suivante?
J'avais un contrat de 2 ans avec une éventuelle option sur une 3e année qui n'était finalement pas recevable à l'UCI au mois de mai dernier, après un hiver un peu catastrophique pour moi. J'ai senti sur les routes du Tour d'Italie que mon corps et surtout que ma tête me lâchait. Je ne faisais plus les sacrifices nécessaires.
Tu avais surtout envie de venir faire l'intégral tour avec nous.
Et quand j'ai croisé Frédéric Adam et Christophe Cessieux à mes côtés,
et Pierre-Yves
Sans, on se connaît depuis très longtemps. C'est mon agent. Non, mais c'est vrai que j'avais commencé à entendre qu'il y avait quelques possibilités de reconversion pour moi. J'ai commencé aussi à me renseigner sur cette formation et ce centre du droit et d'économie du sport auquel j'appartiens maintenant et dans lequel je passe mon diplôme de manager. J'ai décidé d'arrêter au début juillet l'an dernier en disant que c'était ma dernière année, et je crois que j'ai pris la bonne décision puisque je m'éclate avec vous messieurs et je me plais à faire autre chose.
Voilà, bon, en tous les cas tu plais à nos auditeurs, enfin peut-être pas à tous, hein, c'est pareil, c'est comme Vincent, à quelques-uns. Vincent sur le hashtag RMC Live nous dit GG, bravo pour le boulot, bien fait, des commentaires sur RMC. Voilà,
c'est gentil, merci voilà, Vincent.
Qu'en dit notre druide, ça va, il est dans la lignée de ce que tu nous as apporté depuis des années, Cyril, sur les routes du Tour. Est-ce que tu es content de ton petit poulain?
Bah, d'abord, c'est pas mon petit poulain.
Bah, il est un peu nantais comme toi quand même.
Ah, oui, non, c'est mon cheval carrément.
C'est gentil, le druide. C'est gentil.
Pourquoi un petit poulain qui a mangé le foin? Non, mais il se débrouille très très bien, il est très complémentaire et il n'est pas obligé de faire du guimard, il peut faire autre chose, il a sa propre personnalité, il a sa propre perception des choses et il faut qu'il la garde, il n'est pas là pour faire du guimard. Hein. Guimard, il passera de toute façon et puis d'autres le remplaceront, mais ça c'est l'histoire de la vie, mais je crois qu'il est bien parti. Essayez de le garder parce que ça ne va pas être facile.
Oh là là, on va nous le piquer, Mercato est largement entamé.
Mercato est ouvert.
Oh là là,
il y a de très bons échos, il n'y a que la gente féminine qui semble un petit peu réticente vis-à-vis de Jérôme.
Bah oui. C'est vrai qu'il n'est pas très sympa
non
plus.
Elle te préfère, tu es largement au-dessus, Fred. Mais pour la gente féminine, on a ce qu'il faut chez nous, on a Fred et ça suffit amplement.
Fred, un mot sur la course, hein, parce qu'il faut s'y intéresser quand même rapidement, en 10 secondes, ensuite les infos de 16h. 10 secondes, je ne sais pas si tu arrives.
C'est une étape de transition. 14e étape entre Montélimar et Villars-les-Dombes. 4 hommes en tête, le français Jérémy Roy, l'italien Benedetti, l'américain Alex Hose, le suisse Martinel Miguer. 2,50 d'avance pour ces 4-là, 73 km de l'arrivée.
11 secondes, t'es pas mal. T'es pas encore éliminé, t'es pas hors délai. Allez, on se quitte quelques instants, les infos de 16h et on revient pour le final. Enfin, c'est pas vraiment le final, c'est la moitié de l'étape puisqu'il reste encore 73 km à parcourir. À tout à l'heure.
RMC, Intégral Tour.